Bonjour à toutes, bonjour à tous. On vous espère en forme pour cette nouvelle semaine qui commence. Nouvelle semaine de petit matin également et on est ravis d'être avec vous. Il est 6h sur France Culture, soyez les bienvenus. Les premiers titres de la journée, c'est avec vous, Amélie Perrier, bonjour.
Bonjour Émilie, bonjour à tous. L'heure du départ pour des milliers de migrants à Calais, mais pas forcément celui dont ils rêvent. Les forces de l'ordre commencent à évacuer ce matin la jungle. Cette immense bidonville où 6 à 8 000 étrangers survivent dans des conditions plus que précaires, dans l'attente de passer en Angleterre. Mais ce que leur proposent ce matin les autorités, ce n'est pas une traversée de la Manche. C'est une mise à l'abri dans l'un des centres d'accueil répartis dans l'Hexagone. Et les associations d'aide sur place s'opposent au démantèlement. Beaucoup de migrants continueront de tenter la traversée vers l'Angleterre, selon eux. Semaine chargée au ministère de l'Intérieur, puisque l'autre dossier brûlant du moment, c'est la colère des policiers. Le président Hollande doit rencontrer les syndicats mercredi. Des syndicats qui sont en fait débordés par des manifestations sauvages, hors de leur cadre. Chaque nuit, des fonctionnaires se réunissent désormais un peu partout en France pour réclamer des effectifs et des moyens supplémentaires, des peines plus sévères pour les agresseurs ou encore la révision des règles de légitime défense. Dans l'actualité internationale, l'ultimatum du jour, celui de l'Union européenne à la Belgique. Bruxelles donne jusqu'à ce soir au gouvernement belge pour convaincre le Parlement régional de Wallonie de lever son veto sur le CETA, le traité de libre-échange avec le Canada. La Commission a tenté de convaincre la région belge francophone avec une proposition jugée décevante hier par le chef du gouvernement wallon, Paul Magnette. La fin de l'impasse politique en Espagne. Les socialistes ont décidé hier de laisser le conservateur Mariano Rajoy former un nouveau gouvernement. Ils mettent fin à plus de 300 jours de paralysie politique, aucune coalition gouvernementale ne parvenant à se former. Et puis en Irak, l'armée continue son avancée vers Mossoul, aidée par près de 10 000 combattants kurdes. Et en pleine guerre, c'est un autre sujet qui passionne et déchire les politiques du pays, c'est l'interdiction de l'alcool. Le Parlement a voté samedi l'interdiction d'importer, de produire et de vendre de l'alcool, prenant les adversaires de la mesure par surprise. Les opposants dénoncent un vote anticonstitutionnel, le non-respect des minorités religieuses, le risque d'une consommation accrue de drogue pour compenser. Ils condamnent également les partis islamistes hors sujet, selon eux, en pleine offensive contre l'EI.
Merci Amélie. Et puis à tout à l'heure, 6h30 pour le journal de la rédaction.
À tout à l'heure.
À tout à l'heure. Il y a des mots qui nous tirent du sommeil, comme une continuité entre des voix entendues, des lèvres qui remuent dans nos nuits et dont on découvrirait enfin le propos en ouvrant les yeux. Il est 6h02 sur France Culture. Bienvenue dans les petits matins. Que voit-on de nous dans une image? Quel reflet de notre vie s'imprime dans ce que l'on regarde? Qu'est-ce qui fait qu'un jour on range des photos au fond d'un tiroir, qu'un autre jour, plus tard, on peut les retrouver, les regarder, oublier pourquoi on a voulu les cacher ou au contraire voir ressurgir des souvenirs, des visages que l'on croyait pour toujours avoir enfouis? Le photographe américain Jason Lazarus a lancé un appel, relayé par le magazine Vice, un appel à des particuliers dans le cadre d'un projet de photo « Too hard to keep », trop difficile à garder. Il s'agit d'un projet photographique participatif, de la création d'un espace comme un cimetière de photos devenu indésirable dans sa vie. Trop difficile à garder, à regarder, qui rendent le passé trop présent pour pouvoir avancer. Parmi ce que Jason Lazarus a déjà reçu, il y a des photos à moitié déchirées, accompagnées de petits mots de rupture, de regrets, des portraits de personnes que l'on imagine plus de ce monde, des photos d'enfants, d'enfance, des photos d'animaux en fin de vie sur une table de vétérinaire, il y a aussi des chutes, des lits d'hôpital, des bleus sur un visage. Dans ce tas de souvenirs étrangers, il y a cette photo en noir et blanc, une chambre à coucher avec un lit défait, les murs et les lourds rideaux blancs autour. Une femme nue y dort dans ce lit, on y voit son dos, ses fesses. La photo est prise de loin depuis l'embrasure de la porte de cette chambre à coucher. Une photo qui porte en elle la douceur et le silence du jour qui commence et de la vie qui s'apprête à y prendre place, mais qui, comprise dans la série Too Hard to Keep, trop dur à garder, se retrouve comme recouverte d'un voile. Une une prise de vue sur le départ, une place dans ce lit que la femme endormie trouvera sans doute encore et toujours vide à son réveil. Une photo qui ressemble du coup à la dernière, comme une prise d'adieu. Des images qui immortalisent la distance en train de se creuser, l'oubli en train de s'amorcer. Dans ces photos Too Hard to Keep, il pourrait y avoir des images de pur bonheur, des fêtes, des retrouvailles, de celles qui appellent la nostalgie de moments que l'on ne revivra plus, de visages que l'on ne voit plus. Cette série cumule au contraire des images blanches, floues, lointaines, de moments de calme ou tristes, d'heures mystérieuses. Il y a du silence qui s'en dégage, comme des photos dont on saurait dès la prise qu'on ne pourrait pas les garder ni les regarder très longtemps ensuite. Ce genre d'images intimes qui peuplent des recoins de rêves et de nuits noires que l'on garde en tête juste pour ces seuls moments endormis où le passé a sa place. Changement d'ambiance tout de suite dans les petits matins car il est grand temps de sortir de la nuit ensemble. Loin de ces moments suspendus de la photo, il y a la folie décoiffante de l'image mouvement. Cette folie dont nous parlera François Angelier à 6h26 avec des émois consacrés en ce lundi au 300e numéro de la revue Mad Movie. Mais avant la folie du cinéma, il sera question de fureur musicale pour bien commencer la semaine avec l'histoire du rock en 10 chansons. Nouvel ouvrage du journaliste et grand spécialiste de la culture pop américaine Grail Marcus. Il est avec nous jusqu'à 6h25 dans le Paso Doble de Toufik Hakem sur France Culture.
Paso Doble.
Paso Doble.
Lundi, livre.
Un livre à avoir absolument quand on aime la musique et le rock en particulier, l'histoire du rock en 10 chansons. Bonjour Grail Marcus.
Merci beaucoup.
Alors c'est un plaisir de vous recevoir. Et même, je vais pouvoir le dire, une émotion. Vos écrits m'ont beaucoup aidé, inspiré, quand je me suis lancé dans les années 90 dans la presse musicale. Mais je vous évite le couplet hommage. En tout cas, je vous ai beaucoup pompé et je tenais à vous le dire ce matin. Mais pour ceux qui vous connaîtraient pas, je rappelle, Grail Marcus, que vous êtes à l'avant-garde du journalisme musical depuis l'invention de la critique rock au milieu des années 60. Vous avez consacré un nombre impressionnant de livres et d'articles à vos obsessions musicales, Bob Dylan, Elvis Presley, Sly Stone, les Doors, les Beatles, les Sex Pistols. Vous êtes né à San Francisco en 1945. Ancien étudiant à l'université de Berkeley, vous allez être acteur à part entière au cœur des révoltes qui ont secoué les campus américains sur fond de guerre du Vietnam dans les années 60. Et vos premiers articles paraissent en 1968 dans Rolling Stone. Aujourd'hui, vous êtes professeur à Berkeley, l'université où vous avez étudié, et essayiste. Grail Marcus, vous êtes l'auteur de 4 ouvrages majeurs, Mystery Train en 1975, l'indispensable Lipstick Traces, une histoire secrète du XXe siècle en 1989, La République invisible en 1997, L'Amérique et ses prophètes en 2006. Votre conception de la contre-culture consiste à analyser la convergence entre l'histoire de l'Amérique et sa musique. Toute votre œuvre est sous-tendue par l'idée d'une force souterraine qui relie entre eux des événements éloignés dans le temps. Par exemple, la guerre de sécession et le rock des années 70, l'avant-garde dadaïste et le mouvement punk, le mysticisme gnostique et le situationnisme. Votre goût pour l'ésotérique et l'inexprimé n'a rien perdu de sa saveur. Et votre dernier ouvrage, l'histoire du rock en 10 chansons éditées en France par Galad, en est une belle illustration. Ce livre consiste à explorer de façon subjective la mythologie et le sens caché d'un choix improbable de morceaux enregistrés entre 1956 et 2008. Une théorie ou plutôt une philosophie du rock plutôt que son histoire. Alors, il y a les films aussi qui jouent un rôle important dans ce livre, mais comment les 10 chansons ont-elles été choisies?
My belief was that any interesting rock and roll song.
Je pensais que
toutes
les chansons de rock intéressantes portent l'histoire de la musique en
elles.
De la même façon qu'une cellule de notre organisme porte l'ensemble de notre ADN. Dans une bonne chanson,
on entend
ce qui distingue le rock des autres formes de musique.
That kind of music as an idea.
C'est une musique sous une forme d'idées, d'esprit. Et on sent ce à quoi a toujours aspiré le rock. On sent les limites dans une bonne chanson. On sent la frustration de l'artiste lorsqu'il touche du doigt ses limites. On sent dans une bonne chanson la liberté et la célébration lorsqu'un artiste arrive à surmonter ses limites. Donc, peu importe les chansons que j'ai choisies.
So, with a couple of exceptions where I had
il y a des exceptions tout de même, parce que
Joy Division's Transmission,
si l'on prend le morceau Transmission de Joy Division, cela met en scène la façon dont le rock'n'roll cherche l'extrême.
Psychic breakdown
et c'est une,
of any record
un effondrement psychique fondamental, le plus incroyable que j'ai jamais vu dans un disque.
But
et ça, j'ai voulu l'inclure. Ça fait partie des exceptions. Mais globalement, ce sont des chansons sur lesquelles je voulais écrire.
Et j'ai
fait le pari que les chansons que je choisirais pourraient raconter une histoire susceptible d'illustrer l'histoire de la musique. La chanson est une entité en elle-même, elle existe en tant que telle. Une chanson a son propre esprit, en quelque sorte.
How to find yourself, La America.
Grave Arcus, quand vous entendez Morrison chanter cette chanson, L'America, ça vous renvoie à une Amérique de votre jeunesse, d'une période précise, ou elle peut même résonner dans l'Amérique de Donald Trump, cette chanson?
Well, to be honest, when I hear the Doors do this song,
lorsque j'entends les Doors faire ce morceau, je préfère
LA Woman or Roadhouse
LA Woman ou Roadhouse Blues ou The End.
Pourquoi?
This is not their greatest
moment. C'est pas leur meilleure chanson, celle-ci, hein.
It's too obvious.
C'est un petit peu trop évident.
L'America. You know, this is significant. This is important.
Voici ce qui est important. Il souligne cela un petit peu trop.
So no, it doesn't remind me of my youth.
Bref, pour répondre à votre question, ça ne me rappelle pas ma jeunesse.
Donald Trump's
ça America. Ne me fait pas penser à l'Amérique de Donald Trump.
It sounds to me like someone who's run out of ideas.
En réalité, je crois que ce morceau-là indique que les Doors commencent à s'épuiser.
Trust his instincts.
Et c'est un artiste qui ne fait plus confiance à ses instincts à ce stade-là de sa carrière.
Whereas in the end, there's a wonderful moment.
Alors que dans The End, il y a un passage formidable où Jim Morrison dit,
in this wonderfully perfunctory way,
de façon très détachée,
the West is the best.
L'Occident, c'est ce qu'il y a de mieux.
Get here, and we'll do the rest.
Venez et nous ferons le reste.
And you know, as a California person.
Et moi qui suis californien, eh bien, j'adhère à ça. L'Ouest, l'Ouest des États-Unis, mais aussi l'Occident, c'est ce qu'il y a de mieux. Si vous voulez bien connaître l'Amérique, allez sur la côte Ouest.
Dans votre dernier ouvrage, L'histoire du rock en 10 chansons, Grave Arcus, à un certain moment, puisque le livre ne présente pas les principaux genres et courants du rock, c'est plutôt un choix de chansons, très étrange d'ailleurs ce choix de chansons, et vous dites que ce choix ouvre des perspectives à l'exploration du rock comme un langage parlé. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Comment comprendre cette affirmation?
Well, I think that what rock and roll is really about.
Moi, je pense que le rock and roll,
maybe more than anything else,
plus que toute autre chose,
that allows anyone
sur la possibilité qui est donnée à n'importe qui de s'exprimer et d'être entendu. Grâce au rock, n'importe qui peut dire au monde ce qu'il ou elle veut ou craint.
And that makes et the songs themselves
cela fait
a form
des
of speech,
chansons une forme d'expression, une forme de langue.
And the language makes demands
et
on you.
La langue a des exigences envers
in
vous.
German,
en allemand,
the language demands that you
la langue
speak very
exige que vous parliez de
That's
façon très précise.
Of the
C'est
language.
La nature même de la langue
in
qui veut cela.
Roll, the language demands
rock,
that you tell
la
the
langue
truth,
exige
say
que
what
vous
you
disiez.
Feel.
La vérité, que vous exprimiez
hide,
vos sentiments en toute honnêteté,
don't
que vous soyez direct,
of your own voice.
N'ayez pas peur de votre propre voix.
You know, so many
parce qu'il y a tant de gens qui ont peur du son de
so
leur propre voix. Donc, ils s'expriment à une voix très basse tout au long de leur vie. Et le rock and roll dit, eh bien... Faites semblant que tout le monde peut vous entendre. Faites semblant que tout le monde vous écoute. Si tout le monde vous écoutait, que voudriez-vous dire ?
Alors, il y a aussi dans votre livre l'aspect temporel d'une chanson. Combien d'années, combien de temps peut durer une chanson ? Et surtout, comment une chanson se transforme-t-elle en passant d'une génération à une autre ? Et vous prenez plusieurs exemples. Et ben nous aussi, on va reprendre les mêmes au moins un exemple, le dernier chapitre de votre livre, Greg Marcus, pour revenir à la chanson To Know Him Is to Love Him de Phil Spector. Et c'était, on va écouter d'abord la version 1958, celle des Teddy Bears. Écrivait Greg Marcus en 1958, les Teddy Bears se classaient numéro 1 avec le tube To Know Him Is to Love Him, écrit par le Teddy Bear Phil Spector, une chanson qui se révélerait à elle-même 48 ans plus tard quand Amy Winehouse la chante en 2006. Et alors là, vous dites, quand c'est Amy Winehouse, sa musique s'enroulait autour de celle de Spector s'enroulait autour de la sienne, jusqu'à ce que la chanteuse remonte au début de la carrière du compositeur et sauve la chanson. Alors, personne ne peut dire si le compositeur a jamais entendu ce qu'on a fait Winehouse, ou si Winehouse a jamais entendu ce qu'en disait le compositeur. Il ne parle pas, puisqu'il est en prison, Phil Spector, on le sait. Et puis, elle n'est pas là pour parler, Amy Winehouse, parce qu'elle est morte. Mais tout d'abord, on va écouter maintenant la version d'Amy Winehouse, et vous allez nous expliquer pourquoi, chez les Teddy Bears, il y avait quelque chose qui manquait, et c'est quoi ce supplément d'âme que va ramener Amy Winehouse.
Just to see that smile makes my life worthwhile. No, 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 it's love, 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 and I do, I really do, and I do.
Wonderful, thank you. recorded by the Teddy Bears. Don't miss love him, Amy Winehouse. So,
alors Gray Marcus, comme moi je suis un fan de base, je dis ah oui, il a complètement raison. Avant c'était vraiment un tube sans saveur, et avec Amy Winehouse il se passe quelque chose. Elle a ramené quelque chose de mystique. Mais en réalité, qu'est-ce qui vous fait dire ça?
Well, look, I mean, I listen to that and I just melt.
Moi, quand j'écoute ça, eh bien, je me liquéfie.
Hearing that, the need, the wish, the desire,
le besoin,
in those,
le
in that
vœu,
last
le désir
line,
à exprimer,
do I really do?
Dans le fait qu'elle aime vraiment, moi, ça me fait pleurer.
I talked before about how a song is a thing in itself.
J'ai expliqué qu'une chanson pouvait être autonome, un objet en elle-même. Donc elle existe dans le monde une fois créée par l'artiste. La chanson a son propre corps, son propre esprit, sa propre volonté, et la chanson cherche le bon chanteur ou la bonne chanteuse. Cette chanson-ci, elle a attendu 48 ans pour qu'arrive la bonne chanteuse. Amy Winehouse a bien compris cette chanson, bien plus que son auteur Phil Spector. Ou alors, disons qu'elle a pu faire parler cette chanson bien plus que lui. Et lorsque l'on entend Amy Winehouse chanter, on se rend compte qu'elle a beaucoup travaillé cette chanson. Ça ne se fait pas comme ça à la légère. C'est comme si il faut qu'elle se hisse à la hauteur de la chanson. Il faut qu'elle ait suffisamment d'âme pour exprimer la volonté et le désir de cette chanson. Mais cette chanson a dû parcourir les années. Il a fallu qu'elle traverse l'océan Atlantique aussi, pour trouver la bonne chanteuse qu'elle recherchait depuis qu'elle était créée.
Et ce sentiment, vous l'avez eu en 2006, Gray Marcus, ou bien c'est encore avec le recul, avec la fin tragique d'Amy Winehouse, quand vous réécoutez sa version, que vous nous livrez cette impression, une impression contagieuse, parce que vous pensez bien que je suis tout à fait d'accord avec vous.
Amy Winehouse had already died. When I heard this on the radio,
j'ai entendu ce morceau à la radio. Amy Winehouse était déjà décédée.
And I was in the middle of writing this book.
Et j'étais en train d'écrire ce livre.
And I heard this performance. I didn't know what it was.
Ce morceau.
I knew who it was.
Sans
I didn't know
savoir ce
when
que c'était. Je savais que c'était Amy Winehouse. Je savais pas quand ça avait été enregistré ou pourquoi ça avait été enregistré. Mais immédiatement, je me suis dit qu'il faut que j'écrive là-dessus. Et ce sera le dernier chapitre du livre.
So the song. You know, the book didn't write about the songs. In some ways, the songs wrote the book.
En fait, ce sont les chansons qui ont écrit le livre.
Marcus, s'il fallait parler maintenant de l'Amérique d'aujourd'hui, dans une semaine il y aura les élections présidentielles, est-ce qu'il y a déjà pour vous un morceau rock, une chanson qui résumerait pour plus tard ce que l'Amérique est en train de vivre en ce moment?
Sure. We'll go back to the Doors.
Revenons aux Doors.
The end.
The end.
And hope it's not.
Et espérons que ce ne sera pas la fin.
Qu'est devenue la critique musicale, Greg Marcus, pour terminer? Je veux dire, aujourd'hui, est-ce que, par exemple, aujourd'hui, vous lisez Rolling Stone où vous avez commencé votre carrière?
You know, I don't read much music criticism.
À vrai dire, je ne lis pas beaucoup de critiques de musique.
And pourquoi? Parce qu'ils ont disparu?
Non,
c'est pas pour ça.
Music criticism today
parce
is all
que
about
la critique musicale
career.
Aujourd'hui porte sur la carrière
Will
des
this
gens.
New record help this person's
Est-ce que tel album va contribuer à la carrière de tel artiste?
You know, what effect will this record
Quel
have on
impact
this person's career?
Ce disque aura-t-il sur la carrière de tel artiste? Ça ne m'intéresse pas, moi. Moi,
music,
ce qui m'intéresse,
song,
c'est la musique,
record.
Les paroles, le disque.
So, no, I don't read much.
Donc, je ne lis pas beaucoup de critiques
Donc,
de musique.
Vous reconnaissez qu'il n'y a plus de journaux qui parlent de musique There comme on le faisait dans les années 60, 70, hein?
Well, sure. There is great music criticism in blogs.
Très bonne critique
Not so much
musique
on websites.
Des très bons blogs, hein, aussi.
But of course you've got to search and
Mais
search
bien sûr,
and
il faut faire des recherches assez approfondies sur Internet pour trouver la personne qui sait à qui elle parle, autrement dit à vous.
Une fois de plus, merci d'être venu, Gueule Marcus. L'histoire du rock, en 10 chansons, c'est un livre que je vous recommande. Ça, j'espère que vous l'avez compris depuis le début de cet entretien. C'est édité chez Galad. Merci Xavier Combes pour la traduction de cet entretien. Bonne journée.
Entretien de Toufik Hakem réalisé par Thomas Duterte que vous pouvez réécouter, podcaster sur notre site franceculture.fr à la page des Petits Matins, tout comme toutes les autres chroniques de cette première heure de radio. Et maintenant, place à l'image sur France Culture, il est 6h25.
Les émois. François Angelier.
Bonjour François.
Bonjour Émilie.
Il est question de cinéma, François, aujourd'hui, de cinéma fantastique à travers la revue Mad Movie qui fait paraître son 300e numéro.
Absolument. Alors, en ouverture de Petit Matin, vous nous avez parlé de ce photographe américain, Lazarus.
Jason Lazarus.
Qui a demandé à ce qu'on lui envoie les photos qu'on ne veut plus voir, les photos qui vous sont trop pénibles à regarder, les photos que l'on aimerait ne pas avoir prises un jour. Eh bien là, c'est le contraire. Ce sont des images que l'on ne se cesse de revoir, que l'on se gave véritablement les yeux de voir et de revoir, puisque la revue Mad Movies a décidé donc de confier son 300e numéro à des experts pour que chacun choisisse ce qui est pour eux eh bien, les films d'épouvante, les films fantastiques, les films de fantasy les plus emblématiques, ceux que même quand on n'aime pas ce genre de cinéma, on est presque contraint de voir tant ils sont constitutifs de l'histoire du cinéma et en tout cas de la vibration fantastique. Alors Mad Movies, c'est un peu une des douairières du cinéma fantastique en France, des revues de cinéma fantastique en France avec l'écran Fantastique. C'est une revue qui existe depuis 1972, qui est en kiosque depuis 1982 et qui aujourd'hui fête ce 300e numéro avec un faste tout à fait étonnant. Alors de quoi s'agit-il? Eh bien là, vous avez donc, je le répète, les 300 films qu'il faut avoir vus. Ce qui est important, c'est qu'on voit d'ailleurs l'intérêt du DVD, c'est que tous ces films sont disponibles en DVD, zone 1 ou zone 2. Donc c'est des films que l'on peut voir
et vous les avez
et
tous
revoir.
Vus,
j'en ai vu une très bonne partie puisque ce sont effectivement des classiques. Alors on va depuis les origines, évidemment les origines du muet avec le docteur Caligari, Nosferatu, Metropolis, Aksan de Benjamin Christensen, l'histoire de la sorcellerie, jusqu'à ce qui fait l'actualité la plus récente du cinéma fantastique et d'épouvante, Fascination, Calvaire de Fabrice Duvel, Center of the Void de Gaspard Noé, encore L'étrange couleur des larmes de ton corps de 2013. Ce qui est très intéressant, c'est que d'abord ce sont des choix subjectifs, c'est la subjectivité des critiques. Alors il y a des surprises, par exemple Mario Bava, Nous n'avons pas le masque du démon, qui est son film peut-être le plus connu, mais on a d'autres films comme Le corps et le fouet, extraordinaire symphonie masochiste en bord de mer avec Christopher Lee, Six femmes pour l'assassin par exemple. Et puis vous avez des films dont il faut absolument rappeler l'existence, comme Les yeux sans visage de Franju, La maison du diable ou tout ce type de film. Donc c'est vraiment l'élixir, la concentration maximum de toutes les grandes bobines, de tous les grands métrages du cinéma fantastique. Ça, c'est un hors-série, donc Mad Movies. Et par contre, le numéro 300 lui-même, alors lui, vous donne ce qui s'appelle le Mad Monster Show, une sorte de grande parade, de grand défilé baroque et totalement délirant des plus grands monstres de l'écran. J'en ai choisi deux, notamment la page consacrée aux paniques ectoplasmiques ou les fantômes vindicatifs où il y a Sadako de Ring de Nakata, oui. Les marins lépreux de John Carpenter ou Santi dans L'échine du diable de Guillermo del Toro. Voilà,
un c'est magazine à ne pas lire
le
avant de se coucher.
De la monstruosité filmique, le Gotha de l'horreur en 35 mm. Mesdames, messieurs, ne ratez pas Mad Movies, le numéro 300.
Le corps et le fouet qui a réveillé d'un seul coup Thierry Garçon.
J'ai
vu un éclair dans les yeux de Thierry. vie. Mais... Il faut être à côté de François,
c'est tout. François, c'est chaque matin un exploit.
Il est 6h29 sur France Culture et les petits matins se poursuivent avec un studio au grand complet, comme vous pouvez l'entendre, chers auditeurs. Dans une minute, le journal d'Amélie Perrier. Puis à 6h40, le journal des idées. Bonjour Jacques.
Bonjour Amélie.
Et attention, je crois que vous avez réussi à faire, Jacques, ce qu'aucun présentateur de journal n'a réussi à faire jusqu'à maintenant.
Essayez de commencer la semaine du bon pied.
Exactement, avec un journal optimiste. En face de vous, donc, Thierry Garcin, bien réveillé. Bonjour Thierry.
Et bonjour Émilie. Donc, on va parler
des États-Unis.
Des États-Unis, avec au fond les grands enseignements de la campagne électorale. Et notre invité sera Pierre Mélandry.
Et puis à 6h57, nous retrouverons Guillaume Erner avec des matins consacrés au malaise des profs et à la colère de la police.
Il s'autoproclamait menteur ou imposteur. Il était en réalité un sublime révélateur de société. Philosophé avec Fellini dans Les Nouveaux Chemins de la Connaissance d'Adèle Van Rett. De la Dolce Vita à Casanova, de Amarcord à 8,5, revisitons l'œuvre du maestro. Les Nouveaux Chemins de la Connaissance, philosophé avec Fellini, toute cette semaine sur France Culture à 10h. À écouter aussi sur franceculture.fr.
Bon réveil sur France Culture, il est 6h30. Le journal présenté par Amélie Perrier. Bonjour Amélie.
Bonjour Émilie, bonjour à tous. Pour certains, c'est la fin d'un long calvaire de conditions de vie indignes et la perspective d'un abri au moment où l'hiver s'installe en France. Pour d'autres migrants, c'est un obstacle de plus dans leur long exode vers l'Angleterre. La jungle de Calais est démantelée depuis tôt ce matin. Opération d'ampleur pour évacuer les 6 à 8 000 étrangers installés dans le bidonville. Ces derniers jours, les autorités ont déjà tenté de régler le sort des mineurs isolés. Un casse-tête juridique nous explique Claire Millot, la secrétaire générale de l'association Salam.
Le problème des mineurs isolés, c'est que comme tout migrant qui se trouve à Calais, il souhaite aller en Angleterre et donc il souhaite rejoindre de la famille. Et les seuls qui ont vraiment le droit de rejoindre leur famille, c'est ceux qui souhaitent rejoindre leurs parents. Mais pour ça, il faut que les parents soient régularisés en Angleterre. Donc c'est des situations qui sont compliquées. Plus du fait qu'on ne sait jamais vraiment qui est mineur et qui ne l'est pas. C'est très très compliqué à déterminer parce que dans certains cas, ils ont intérêt à dire qu'ils sont mineurs. Quand on dit, bon, les mineurs, on va étudier leur dossier. Et s'ils ont vraiment de la famille en Angleterre, on va les laisser passer. Alors là, il y en a beaucoup plus qui sont mineurs. Et puis quand on leur dit, on va vous mettre à l'abri, on va s'occuper de vous dans des centres. Là, ils ont l'impression qu'on veut les priver de liberté. Et puis d'un seul coup, ils disent qu'ils sont majeurs. Hein. Vous voyez, c'est très, très compliqué. Et puis on sait très bien, il y a à peu près 1000 mineurs isolés sur Calais. Même si on ne sait pas exactement combien qui est mineur. Les Anglais n'en prendront pas 1000. C'est bien aussi.
Claire Millot de l'association Salam, elle répondait à Fabien Lebouc. Les migrants de Calais seront emmenés à partir d'aujourd'hui donc par car dans des CAO, des centres d'accueil et d'orientation disséminés un peu partout en France. Le transfert doit durer toute la semaine. Dans le Vaucluse, à la Tour d'Aigle, hier, 200 sympathisants du Front National se sont retrouvés face à 500 personnes d'un collectif de citoyens favorables à leur accueil. Et puis en Haute-Loire, environ 2000 personnes ont gravi hier le Mont-Mézinc, lieu traditionnel des rentrées médiatiques de Laurent Wauquiez, le président. Le président LR de la région Auvergne-Rhône-Alpes refuse l'arrivée de migrants dans les communes de sa région. Calmer la colère, c'est le défi de la gauche avec les policiers. Le président Hollande doit rencontrer mercredi les syndicats pour tenter d'éteindre le mouvement né il y a une semaine. Exaspéré par l'agression d'une patrouille au cocktail Molotov à Viry-Châtillon au début du mois, il réclame davantage d'effectifs et de moyens, des peines plus sévères pour les agresseurs et puis la révision des règles de légitime défense. Toutes les nuits, partout en France, des fonctionnaires manifestent donc hors de tout cadre syndical et de toute autorisation préfectorale également. Pour le politologue Luc Rouban, il faut voir dans ce mouvement l'aboutissement d'un long processus à l'œuvre dans la police depuis des années, dans la police et même plus largement dans la fonction publique.
C'est une crise, si vous voulez, qui s'insère dans peut-être une crise plus générale de la fonction publique et qui partage un certain nombre de points communs avec d'autres corps ou d'autres secteurs d'activité, par exemple comme le secteur hospitalier ou l'enseignement. À savoir, certainement un problème aujourd'hui très important de relations entre la base, hein, les agents de service qui sont en contact avec les usagers, et la hiérarchie. Et tout cela dans le cadre, si vous voulez, d'une évolution générale qui a fait qu'on est allé vers de plus en plus ce qu'on appelle le managérialisme, c'est-à-dire que les hiérarchies ont développé des techniques de gestion et de contrôle des activités qui les ont progressivement éloignées du terrain et des pratiques quotidiennes, ce qui alimente l'incompréhension et l'absence de remontée des doléances. On a commencé à en voir les premiers symptômes à partir de 2009-2010, à mesure qu'on mettait en œuvre la RGPP, qu'on réduisait les effectifs, qu'on managérialisait, pour utiliser ce terme barbare, l'administration publique. Mais ce qui arrive, c'est qu'effectivement, si vous avez un surcroît de demande brutale, comme c'est le cas aujourd'hui, notamment avec le terrorisme ou la violence urbaine, etc., eh bien évidemment, cela dégénère et cela crée une onde de choc et l'ensemble du mécanisme se grippe.
Le politologue Luc Rouban, il répondait à Stéphane Robert.
Il est 6h34 sur France Culture. La suite du journal avec vous, Amélie Perrier. Et l'actualité ce matin, c'est aussi la fin de la paralysie politique en Espagne.
Oui, les socialistes espagnols renoncent au pouvoir. Ils ont décidé hier en comité fédéral de laisser le conservateur Mariano Rajoy former un nouveau gouvernement. Ils s'abstiendront lors du vote de confiance. Le PSOE évite ainsi aux Espagnols de retourner aux urnes pour la troisième fois en un an. Un scrutin où ils risquaient de toute façon de perdre encore du terrain, notamment face au parti austérité Podemos. Le parti populaire de Mariano Rajoy a remporté les deux dernières élections, mais sans majorité absolue et sans allié, il va pouvoir former maintenant un gouvernement minoritaire. La Grèce, elle, n'en a pas fini avec les cures d'austérité. Des équipes d'experts ont entamé des négociations avec les dirigeants grecs à Athènes pour débloquer une nouvelle tranche de prêts. L'Union européenne et le FMI réclament en échange la poursuite des privatisations, une réforme du marché du travail ou encore la gestion des prêts bancaires non performants. Dès aujourd'hui, la Grèce attend le versement d'un peu plus d'un milliard d'euros. Angélique Kourounis nous appelle d'Athènes.
Pour finaliser cette nouvelle tranche de prêts, les créanciers Allemagne en tête exigent l'accélération des privatisations, la totale libération du marché de l'énergie et la création d'une autorité indépendante pour surveiller les revenus publics. Mesure très difficile à faire passer auprès des Grecs désabusés, de plus en plus nombreux à penser que la fin du tunnel ne viendra pas. Pour le gouvernement de Tsipras, il s'agit là d'un véritable revers, car depuis des mois, il annonçait sur tous les tons que les efforts du peuple grec allaient être reconnus. Mais c'était compté sans les prochaines élections allemandes, qui se sont invitées au sommet du Luxembourg qui a statué sur l'octroi de cette demi-tranche de prêt. Le ministre des Finances allemand, Wolfgang Schäuble, s'étant catégoriquement opposé au total décaissage de la tranche promise. Dès lors, le Premier ministre Alexis Tsipras, qui a présenté un budget prévoyant un retour à la croissance en 2017 avec 250 millions d'investissements publics, n'a d'autre solution que d'éliminer les dernières résistances de son gouvernement envers les exigences des créanciers, d'où les rumeurs d'un futur remaniement ministériel, mesure qui risque d'augmenter la défiance de ses électeurs.
L'ultimatum de l'Union européenne à la Belgique, elle a jusqu'à ce soir pour convaincre le Parlement régional de Wallonie d'adhérer au CETA, le traité de libre-échange avec le Canada. Et cela se présente mal, le chef du gouvernement local wallon a rejeté hier une proposition européenne décevante selon lui. Il considère également qu'un tel ultimatum n'est pas compatible avec le processus démocratique. Et terminons par cette initiative qui ravira les curieux, les amoureux des océans et tous ceux concernés par l'avenir de notre planète. EUMETSAT, l'organisation européenne qui exploite les satellites météo et l'Union européenne, lance ce matin un MOOC, un cycle de cours gratuits sur Internet. Ce MOOC est intitulé « Monitoring the Oceans from Space ». Oui, c'est en anglais. Ça veut dire « Surveiller les océans de l'espace » grâce aux images envoyées par les satellites du programme Copernicus. Explication avec Sophie Bécherel.
Suivre la trajectoire des tempêtes, les pollutions marines, améliorer la sécurité maritime ou la prévision météo, soutenir la pêche, les satellites qui surveillent les océans rendent de nombreux services. Hayley Eversking du laboratoire marin de Plymouth.
Surveiller les océans, cela permet d'en savoir plus sur les dangers qui nous menacent, sur la gestion durable des océans, les changements climatiques et l'approvisionnement en nourriture. Donc ces satellites ne concernent pas que les scientifiques, mais aussi les décideurs politiques et chacun d'entre nous.
Il y a 20 ans, ce sont les satellites d'altimétrie comme Jason ou Topex Poséidon qui ont commencé à mesurer en continu l'altitude des vagues, la salinité, la température, le niveau des mers. Autant d'informations qu'on a rentrées dans les modèles climatiques et qui permettent aujourd'hui de mesurer au millimètre mettre près la montée des océans. Avec le MOOC, à raison de 3 heures par semaine pendant 5 semaines, vous saurez désormais où trouver les données qui vous intéressent, qui fait quoi depuis l'espace, qui gère les mers. C'est entièrement gratuit et accessible à tous, mais c'est en anglais.
Et voilà, inscription à ce MOOC, ces cours gratuits sur Internet et en anglais. Vous êtes tous bilingues ici, mais vous le premier, François Angelier. Inscription sur le site, là aussi c'est en anglais, futurelearn.com. Le temps de ce lundi pour terminer, une dégradation va traverser quasiment tout le pays avec de la pluie, des bancs de brouillard ce matin et des fortes rafales de vent sur les Pyrénées notamment. Les températures au petit matin, elles vont de 6 à 11 degrés. L'après-midi, on attend 12 à Lille, 14 à Paris, 15 degrés à Rennes, 18 à Dijon, 21 à Toulouse et 25 à Marseille. 6h38, bon début de semaine sur France Culture pour vous donner plein de courage. C'est Émilie Chaudet qui s'occupe de vos petits matins avec maintenant la revue de presse.
Merci Amélie. Le démantèlement du camp de Calais s'affiche en une de la plupart de nos quotidiens aujourd'hui. Ou plutôt, ce sont les questions autour de ce démantèlement qui émergent dans la plupart des titres. Les inquiétudes des migrants en première page de l'Humanité qui consacre aujourd'hui un dossier spécial à l'événement et précise que les premiers départs en car doivent débuter donc ce matin. Nous allons tous être dispersés. Nous avons quitté nos pays pour fuir la souffrance et ça aussi, c'en est une, dit Tarek en accroche de ce dossier. Libération donne aussi la parole à ces migrants qui ne savent rien de ce que leur réserve ces premiers jours d'après Calais. Les risques du direct, titre le journal avec ce sous-titre que je cite, en démantelant le bidonville en 3 jours sous l'œil des caméras du monde entier, l'État s'expose à des dérapages filmés, d'autant que les pièges sont nombreux. En page 2 et 3, les témoignages du Nigérien Esmaïl, du Soudanais Mohamed, du Bédouin apatride Zidane et de l'Érythréenne Hélène. Ces témoignages donc donnent une idée de l'impréparation dans laquelle ce démantèlement s'apprête tout juste à se dérouler. Je suis inquiet, dit Esmaïl, car même si la loi a changé, toutes les préfectures ne la respectent pas. Cela dépend des régions, si les habitants sont accueillants. Et justement, il en est question de la question de l'accueil en une du Figaro qui titre « Après l'évacuation, les interrogations ». Ce sont plutôt celles des élus et des habitants que rapporte le journal. Et les propos d'un Patrick Kanner en exergue des pages 2 et 3 de ce journal. Le ministre de la Ville qui y va de son avertissement, je le dis aux No Borders ou à tout autre provocateur de l'ultra-gauche, l'État sera intraitable, qu'il n'espère pas pouvoir créer le désordre dans cette ville de Calais. En parlant de désordre et pour finir, Le Parisien aujourd'hui en France et La Croix titre sur le malaise des policiers et sur leurs manifestations à répétition. Ce que veulent les policiers, titre La Croix, qui rapporte ses paroles de colère contre une hiérarchie qui ne soutient plus, contre une culture du chiffre pressurisante et ses mots d'une policière de 40 ans. Notre révolte vient de loin. Trouver de fausses explications et ne pas l'entendre serait une grave erreur. Et dans tout ce noir tableau de début de semaine, il y a une pointe de lumière qui se dessine à 6h40. C'est celle de Jacques Munier et de son journal des idées.
Le journal des idées. Jacques Munier.
Bonjour Jacques.
Bonjour Émilie, bonjour à tous.
On commence, pour bien commencer la semaine donc, on va célébrer les vertus de l'optimisme.
Oui, sans verser dans la béatitude, ces avantages sont reconnus dans l'action comme dans la vie en société. Un pessimiste voit la difficulté dans chaque opportunité, un optimiste voit l'opportunité dans chaque difficulté, disait Churchill. À notre époque volontiers décliniste, l'optimisme peut même passer pour une vertu révolutionnaire. En matière d'information, l'idée selon laquelle les trains qui arrivent à l'heure n'intéressent personne semble aujourd'hui battue en brèche. Un style a fait son temps. Vous vous souvenez peut-être, vous étiez trop jeune, vous, Émilie, de l'ironie de Coluche quand il y a un avion qui s'écrase dans le monde. C'est sur les pompes de Roger Gicquel, le présentateur à la triste figure du JT de TF1 dans les années 70. Une étude de l'université de Pennsylvanie, réalisée à partir du New York Times, a démontré que les articles les plus partagés étaient ceux qui traitaient d'informations positive. Dans le supplément week-end des Échos, Stefano Lupieri a mené l'enquête sur cette faculté propre à déclencher des énergies positives. Pour le psychologue américain Martin Seligman, c'est ce qu'il désigne comme le style explicatif des événements qui distingue les optimistes et les pessimistes. Ceux-ci attribuent leurs échecs à des causes internes, stables et globales. Je suis nul et ça ne va pas changer de sitôt. Alors qu'ils interprètent leur succès comme le résultat de causes externes, la chance par exemple. À l'opposé, des optimistes qui associent leur déboire aux circonstances et leur réussite à des facteurs pérennes comme leurs compétences. Tout le travail consiste donc à passer d'un style explicatif à l'autre.
Mais attention Jacques, parce que trop d'optimisme peut aussi nous nuire.
Oui, car s'il a d'incontestables effets sur la sécrétion de sérotonine et de dopamine, les neurotransmetteurs du bonheur et de l'action, l'excès d'optimisme peut amener à sous-évaluer les risques. D'après une étude récente, 50% des créateurs d'entreprises ont tendance à surestimer leurs perspectives de développement, ce qui les amène à s'endetter à court terme et peut au final leur coûter cher. Si l'on élargit la focale, le mythe du progrès, par exemple, a pu jouer un rôle négatif dans la domination et la colonisation des peuples, la pollution de l'environnement ou l'épuisement des ressources naturelles. Les pages idées de Marianne donnent à lire des extraits du livre de Peter Wagner, publié à la Découverte sous le titre « Sauver le progrès », un des rêves de la raison tel qu'envisagé par les Lumières était que l'humanité se mette sur le chemin du progrès perpétuel. Deux siècles plus tard, constate le sociologue, nous ne savons que faire de ce rêve. Mais pour lui, face à la désorientation généralisée qui a succédé à l'excès de confiance, il faut sauver l'idée, ne serait-ce que pour éviter d'avoir à accepter le temps présent tel qu'il est. D'autant que pour beaucoup d'entre nous, ailleurs qu'en Occident, les espoirs placés dans le progrès restent d'actualité. Encore faut-il redéfinir son orientation. Le modèle de la croissance économique à tout craint fait place aujourd'hui à une conception de la croissance qualitative et le PIB comme mesure standard de progrès à l'indice de développement humain présenté par des économistes d'Asie du Sud comme une mesure alternative de la satisfaction des besoins incluant avec les revenus, l'espérance de vie, l'éducation ou la culture et il est utilisé par le programme des Nations Unies pour le développement.
Et le sous-titre du livre de Peter Wagner est éloquent à ce titre, comment rendre l'avenir à nouveau désirable?
Oui, selon lui, et c'est l'objet du livre d'ailleurs, il faut revenir aux conditions d'émergence de l'idée de progrès, historiquement située en Europe de l'Ouest avec la révolution scientifique, la révolution française et la révolution industrielle. Ceci afin de situer le présent dans le temps et de comparer le réel advenu avec le possible espéré. À l'origine, rappelle-t-il, l'attente du progrès avait été fondée sur la conviction que l'âge de l'autonomie avait commencé et que les êtres humains, libres et pourvus de raison, ne pourraient qu'améliorer leurs conditions d'existence de manière stable et continue. Au siècle des Lumières, l'un des premiers philosophes à l'avoir pensé, ses conséquences politiques de l'émancipation pour l'humanité, c'est Kant. L'articulation entre liberté et raison devait nécessairement engendrer le progrès. Les deux guerres mondiales et les génocides du XXe siècle allaient apporter un cinglant démenti à cet optimisme. Méditant sur un tableau de Paul Klee qui représente l'ange de l'histoire, le regard tourné vers le passé et qui ne voit qu'une seule et unique catastrophe qui sans cesse amoncelle ruine sur ruine, Walter Benjamin observe qu'une tempête le pousse irrésistiblement vers l'avenir. Cette tempête, c'est ce que nous appelons le progrès.
Merci Jacques Meunier, vous revenez quand vous voulez pour nous parler d'optimisme et de dopamine et de sérotonine. J'ai vu que ça stimulait particulièrement François Angelier.
Moi je suis un pessimiste hyperactif.
Très bonne définition, j'aurais pas trouvé mieux. Il est 6h45 sur France Culture.
Les enjeux internationaux, Thierry Garcin.
Bonjour Thierry.
Et bonjour Émilie.
Alors aujourd'hui, direction les États-Unis avec les grands enseignements de la campagne électorale.
Voilà, on va prendre un petit peu de recul avec notre invité Pierre Mulandry, professeur des universités à Sciences Po, qui vient de faire paraître un ouvrage intitulé « Le siècle américain, une histoire ». C'est chez Perrin, c'est un livre somme, près de 700 pages. La campagne présidentielle américaine est particulièrement originale, on le sait, hélas pour de mauvaises raisons. Alors par-delà la personnalité, le programme de chacun des deux candidats, cette campagne peu ragoûtante à mes égards, a montré les limites de l'exercice, sans compter, il faut toujours le rappeler, les sommes vertigineuses englouties dans ce que l'on pourrait appeler un spectacle. Alors les conséquences possibles sur la vie politique partisane sont intéressantes évidemment à analyser. Commencer par le parti républicain confronté à une poussée de droite extrême, voire d'extrême droite, cela ajouté à un populisme qui n'a rien à envier à celui que nous connaissons en Europe. Alors dans quelle mesure le parti républicain sera-t-il malmené si Donald Trump perd? Et puis la santé du parti démocrate dépendra sans doute des législatives concomitantes. À ce stade, la candidate Hillary Clinton ne représente en rien le renouveau. Donc, c'est une élection tout à fait spécifique. Pierre Mulandry.
Oui, je crois d'abord qu'il faut voir que cette élection sanctionne la fin de ce qu'on a pu appeler le siècle américain. D'abord, sans doute, parce que pour la première fois, le candidat d'un grand parti a remis en cause la nature unique des États-Unis. Certes, pour Hillary Clinton, ceux-ci restent toujours une nation exceptionnelle du fait de leur force militaire, du dynamisme de leur économie et surtout de leurs valeurs. Ils sont donc la nation indispensable à qui il revient de guider le monde. Mais pour Trump, qui a choisi pour slogan « Let us make America great again », l'Amérique précisément n'est plus grande. Pire, elle est comme assiégée en proie au terrorisme, à une invasion d'immigrants sans papier, à une vague montante de criminalité. Et dès lors, elle doit se garder de donner des leçons et a fortiori de vouloir refaire le monde, mais au contraire se replier sur une défense agressive du type America First de ses intérêts. Sa grande métaphore, c'est le mur. Elle doit négocier au prix fort la stabilité qu'elle fournit à grands frais au reste du monde. Je pense, a-t-il dit, que nous avons été un pays très puissant, très riche, et nous sommes un pays pauvre désormais. Nous sommes une nation endettée. À ses yeux, l'Amérique est finalement un pays moins exceptionnel qu'ordinaire. Deuxième raison pour laquelle on a finalement une sanction de la fin du siècle américain, les candidats des deux partis, l'un comme l'autre, ont rejeté à travers le TPP, le partenariat transpacifique, cette quête d'ouverture toujours plus large des marchés que précisément depuis la Seconde Guerre mondiale, la politique américaine n'avait cessé d'impulser. Enfin, on ne peut être que frappé par le hiatus toujours plus grand dans cette élection entre d'un côté l'ampleur des enjeux et de l'autre la médiocrité, voire le caractère parfois affligeant des débats et des affrontements.
Alors il faut en parler, Pierre Mélandry, on a souvent cité les propos accablants pour lui-même du candidat républicain Donald Trump, qui parle d'ailleurs comme un chartier, qui a des réponses péremptoires à peu près toutes les questions, mais évidemment c'est un contraste tout à fait étonnant avec les enjeux qui sont considérables, et qui sont considérables parce que ce sont les États-Unis d'Amérique, et d'ailleurs Madame Clinton a eu une phrase quasi républicaine en disant dans son dernier débat avec Donald Trump la semaine dernière, elle a dit « Les États-Unis sont, je cite de mémoire, nous sommes grands parce que nous sommes bons. On entendrait le président Bush fils. »
Oui, tout à fait, mais précisément, elle défend d'autant plus cet exceptionnalisme américain qu'il est remis en cause par son adversaire. Mais les enjeux sont importants. D'abord, évidemment, vous venez de signaler Hillary Clinton. Quand même, on a un peu oublié, mais c'est une chance pour les États-Unis d'élire pour la première fois une femme à la Maison-Blanche. Ensuite, au-delà de la Maison-Blanche, il y a les deux chambres du Congrès qui pourraient être en jeu, en particulier le Sénat. Et si le Sénat devient démocrate, on verra les répercussions sur la Cour suprême elle-même, dont on a vu au cours des dernières années l'importance du rôle sur divers dossiers majeurs comme le rôle de l'argent dans la vie politique, la réforme du système de santé, la politique d'immigration, le réchauffement climatique. Mais je dirais qu'il y a finalement peut-être un dernier grand enjeu dans cette élection, c'est le risque de voir un des deux grands partis, en l'occurrence le Parti républicain, imploser.
Alors, justement, imploser, il y avait déjà eu d'ailleurs, il avait été secoué par le Tea Party il y a combien d'années environ? Une quinzaine d'années, je n'ai pas vérifié.
Non, la Tea Party remonte à l'élection d'Obama. En fait, elle est lancée, si je me rappelle bien, par Rick Santelli quelque part en mars 2009. Ça fait donc effectivement 8 ans à peu près. Et elle part un peu comme un feu de paille à une vitesse tout à fait extraordinaire et va déjà influer les élections partielles qui ont lieu à la fin de cette année 2009 et évidemment l'élection de 2010 qui va faire figure d'un relatif triomphe pour le Parti républicain, même si le caractère extrême de certains de ses candidats l'empêche encore de véritablement conquérir le Sénat.
Alors vous parlez de dysfonctionnement, en quoi cette campagne révèle-t-elle, traduit-elle une évolution de la société américaine et même du système politique américain ?
Je crois qu'une première explication de ce dysfonctionnement, n'est-ce pas, qui réjouit les adversaires des États-Unis, l'agence chinoise Xinhua n'hésite pas à qualifier l'élection, je la cite, de drame divertissant qui illustre le dysfonctionnement, précisément, du modèle mondial autoproclamé de démocratie, peut s'expliquer par trois facteurs. Une première explication relève sans doute du changement du paysage médiatique, le triomphe de ce qu'on appelle aux États-Unis l'infotainment, ce cocktail d'informations et de divertissement, de la faction, la fusion des faits et de la fiction, le rôle toujours plus grand aussi d'Internet et des réseaux sociaux, ont largement brisé le lien qui existait entre la réalité et la rhétorique, favorisé l'élection d'un Trump, ou plutôt la nomination d'un Trump par le Parti républicain. Trump était une célébrité de la télé-réalité et plus généralement débouché sur ce que l'on appelle la post-truth politics, une vie politique où la réalité n'a plus vraiment d'importance, où l'émotion l'emporte sur la réalité et l'information, et où à force d'être répétées, des contre-vérités finissent par s'imposer comme des faits. La deuxième explication, je crois que c'est le sentiment, reflété par l'expression « bring our country back », d'un nombre non négligeable d'Américains que le pays n'est plus celui auquel ils s'identifiaient. Ce sentiment a pu revêtir une dimension, on l'a bien vu, raciste, xénophobe. Il a pu procéder du refus de voir un Africain américain à la Maison Blanche. Après tout, Trump a été le plus célèbre des birthers. Il a pu procéder de la peur de voir les Blancs devenir minoritaires dans 2 ou 3 décennies aux États-Unis. Mais il a sans doute aussi résulté de la prise de conscience des mutations de l'Amérique au cours des dernières décennies, de la fin du siècle américain, du glissement de l'Amérique après 2 guerres perdues, après la montée de la Chine, du statut d'hyperpuissance incontestée à un rôle plus incertain de primus inter pares dans un monde globalisé et éclaté, mais plus encore, sans doute, cette prise de conscience a procédé de l'impact de l'ouverture des frontières et des marchés à laquelle le siècle américain s'est identifié sur le rêve américain lui-même, sur le modèle de société auquel l'American Way of Life était associé, au modèle aujourd'hui pulvérisé par le creusement abyssal des inégalités et par la substitution à travers la globalisation, la robotisation, la désindustrialisation pour les Blancs avec au mieux une instruction secondaire, un passé fait de croissance et de sécurité, d'un avenir qui semble devoir être dominé par la stagnation des revenus et par la précarité.
Alors, juste d'un mot, et on arrive malheureusement à la fin, Pierre Mélandry, et je rappelle que vous avez justement publié Le siècle américain, une histoire qui vient de sortir chez Perrin, et qui est un livre somme qui sera utilisé par nombre d'entre nous et beaucoup d'autres. En ce qui concerne le Parti républicain, juste d'un mot, est-ce qu'il peut être plus que malmené? Si, en cas d'échec, évidemment, de Trump.
Oui, je crois que le problème du Parti républicain, c'est que depuis les années 70, il avait réussi l'exploit d'avoir pour principale raison de servir les gagnants de la globalisation, et pour base électorale, les principaux perdants de la globalisation. Longtemps, ses responsables avaient pu surmonter cette contradiction en imputant de façon subliminale la rétraction des perspectives économiques des Blancs de conditions modestes à la montée des minorités, en canalisant la rage que le triomphe de la modernité pouvait engendrer. Mais c'est ce jeu que Trump est venu briser. Il a exploité les frustrations toujours plus grandes, voire le sentiment de trahison des militants devant l'impuissance du parti à réaliser les objectifs qu'il leur avait laissé enterrer, mais aussi leur angoisse devant les retombées de la globalisation et de la désindustrialisation. Bref, il a à la fois surenchéri sans doute dans la dénonciation des étrangers de l'immigration, mais renversé les positions du parti sur 2 dossiers clés, l'ouverture internationale des marchés, la remise en cause des droits acquis pour les salariés. Bref, il a rompu avec ce qui était jusqu'ici l'orthodoxie du parti.
Pierre Mélandry, professeur des universités à Sciences Po, donc encore une fois, son ouvrage Le siècle américain, une histoire chez Perrin, transculture.fr pour écouter l'émission et la télécharger.
Merci Thierry, et demain il sera question de la bataille de Mossoul dans les enjeux internationaux.
Oui, et même par-delà cette bataille, du sort surtout de l'État islamique avec notre invité Hugo Micheron.
6h55 sur France Culture.
Swinging your guitar around, 'cause they wanted to hear that sound, but you didn't wanna play.
I Don't Blame You, très beau titre de la chanteuse Cat Power sur son album You Are Free. I Don't Blame You, je ne t'en veux pas, pour vous évoquer ce pardon accordé à tous les homosexuels condamnés pour avoir aimé une personne du même sexe. Donc toute la presse en a parlé ce week-end, c'était au Royaume-Uni. Libération précise que cela fait seulement 50 ans à peu près que l'homosexualité n'est plus un crime en Angleterre et au Pays de Galles. Vendredi dernier, le Parlement britannique donc débattait d'une proposition d'amnistie envers ses 65 000 hommes condamnés pour homosexualité, le plus connu d'entre eux étant bien sûr Oscar Wilde, le poète et écrivain qui a été condamné à 2 ans de travaux forcés en 1895. Cette loi permettrait donc d'effacer automatiquement des casiers judiciaires toute condamnation pour homosexualité de toute personne condamnée, qu'elle soit décédée ou encore vivante aujourd'hui, et il y a environ 15 000 hommes condamnés déjà encore vivants qui devraient donc se voir amnistiés. Bonjour Guillaume Erner.
Bonjour Émilie, bonjour Thierry, bonjour François et
bonjour,
bonjour
Guillaume.
Il est 6h57, il est grand temps de vous nous faire part de votre humeur du jour.
L'humeur du matin, Guillaume Erner.
Et plus que d'une humeur, il s'agit d'une réponse. Guillaume, vous avez trouvé la cause des malheurs du monde, en tout cas c'est aux États-Unis.
Bah oui, pourquoi tout va mal? Alors en France, vous savez, on hésite sur la réponse à cause de la méthode globale d'apprentissage de la lecture, parce qu'il y a eu mai 68. Aux États-Unis, en revanche, on a une réponse. La plupart des malheurs du monde proviendraient des parents hélicoptères. Alors, qu'est-ce qu'un parent hélicoptère? Eh bien, c'est une génitrice ou un géniteur qui tourne en permanence au-dessus de son rejeton, faisant le plus de bruit possible pour l'empêcher de jouir de son enfance et profitant donc de sa position de surplomb pour le mettre en garde contre le principal danger qui menace l'enfant, un danger qui se résume en un verbe. Vivre. Le parent hélicoptère bat des pales donc au-dessus de son enfant et l'empêche de respirer. Pas une semaine ne se passe sans que la presse américaine, le New York Times en particulier, ne mette en garde la société américaine contre cet individu protecteur jusqu'à la maltraitance. Alors il y a deux semaines, on le rendait responsable du binge drinking, vous savez ces méga cuites que se font subir certains jeunes. Et ce week-end, il s'agit d'expliquer aux parents hélicoptères qu'il faut laisser les enfants jouer, même s'ils doivent se faire parfois des bobos. Alors sur les raisons de l'apparition des PH, hein, des parents hélicoptères, les explications divergent. S'agit-il d'une révolution conservatrice ou bien des conséquences du 11 septembre? En tout cas, une chose est certaine, les parents hélicoptères sont tout simplement la poursuite du professionnalisme par d'autres moyens. Tout se passe comme si être parent aux États-Unis était devenu un métier, un vrai métier qu'il s'agissait de faire le mieux possible comme un professionnel. Certes, votre bébé ne vous demande pas encore votre CV, mais il exige de vous compétences, motivation et investissement à défaut d'expérience si vous n'en avez pas. Voilà comment ces parents hélicoptères ont pris leur envol et voilà pourquoi l'atterrissage promet d'être dur.
Ça sent le règlement de compte. Guillaume Herner. Merci beaucoup. On vous retrouve dans un instant. Le temps pour moi de remercier la fine équipe des Petits Matins. François Angelier, merci. Jacques Munier, Thierry Garcin, Toufik, Hakem, Midia Portis-Guérin à la réalisation. Accompagné ce matin la prise de son de Dalia.
France Culture présente l'exposition de Jean-Luc Vernat au MacVal. Artiste pluridisciplinaire, Jean-Luc Vernat place le corps au centre de son travail, dans toutes ses dimensions et humeurs. Tour à tour glorieux, misérable, jouissant, souffrant, vivant. Dessin, photographie, installation, musique et danse. Une rétrospective Jean-Luc Vernat jusqu'au 26 février au Musée d'art contemporain du Val-de-Marne à Vitry-sur-Seine. Un partenariat France Culture.
Et ce matin, Guillaume, il est question du malaise des profs et de la colère des policiers.
Voilà, deux professions qui sont aux prises, effectivement, avec les difficultés sociales. Deux professions qui peuvent être considérées comme les urgentistes de la République. Bonne journée, Émilie.
Bonne journée à vous.